VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 22 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Arnold Bolson. Tout d'abord les titres.
Les États-Unis condamnent le double attentat terroriste de dimanche en Somalie qui a fait une vingtaine de morts hier à Galkayo.
La Somalie, le terrorisme et le Soudan du Sud au centre des entretiens. Aujourd'hui à Nairobi entre John Kerry et ses homologues est-africains après sa rencontre avec le président Kenyatta.
Procès inédit aujourd'hui devant la CPI. Un djihadiste malien présumé doit plaider coupable de la destruction de mausolées classées au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou.
En République démocratique du Congo, refus de la coalition des forces d'opposition de participer aux travaux préparatoires du dialogue national et appel à la grève générale après le report à 2017 de la présidentielle prévue en novembre.
Mauritanie et les États-Unis se sont dit gravement préoccupés par les peines de prison sévères infligées à 20 personnes arrêtées après les manifestations du 29 juin à Nouakchott.
En Turquie, l'auteur de l'attentat terroriste de samedi lors d'un mariage dans le sud-est avait entre 12 et 14 ans, a dit le président Erdogan. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Les États-Unis ont condamné le double attentat à la voiture piégée qui a fait au moins 20 morts hier dans la ville de Galkayo, dans le centre de la Somalie. Ces attaques qui visaient le siège du gouvernement local et un marché proche ont été revendiquées par les insurgés islamistes Chebab. Jean-Roger Bian.
Un habitant, Hassan Abdoukadi, a dénombré une douzaine de corps, certains brûlés au-delà de toute reconnaissance possible. Ça a été horrible. La première explosion a été provoquée par un camion rempli d'explosifs et la seconde par un minibus, a-t-il ajouté. Un témoin qui a requis l'anonymat a dit au service somali de la VOA qu'une femme était au volant du second véhicule. La Maison-Blanche a condamné ces attentats dans un communiqué du Conseil de sécurité nationale du président Barack Obama. Il s'agit, ajoute-t-elle, d'une nouvelle tentative de terrorisme d'affaiblir la Somalie avant sa transition politique vers une meilleure représentation prévue cet automne. Les Chebab ont revendiqué les explosions sur Telegram, une messagerie cryptée prisée par les djihadistes, affirmant avoir tué au moins 30 personnes, parmi lesquelles du personnel militaire et des apostats. Ils mènent régulièrement des attaques contre le gouvernement, les civils ou des cibles militaires.
La Somalie est à l'ordre du jour des discussions d'aujourd'hui à Nairobi entre John Kerry et des ministres est-africains des Affaires étrangères. Le secrétaire d'État américain doit aussi s'entretenir avec ses homologues du Soudan du Sud et des moyens d'éviter que ce pays ne sombre de nouveau dans la guerre civile. M. Kerry aura eu auparavant une rencontre avec le président kényan Uhuru Kenyatta. Après le Kenya, il se rendra au Nigeria où les terroristes du groupe islamiste Boko Haram ont tué plus de 20 000 personnes depuis 2009.
Au Nigeria, justement, Boko Haram a tué 10 personnes et en a kidnappé 13 autres samedi dans un village proche de Chibok, localité où plus de 200 lycéennes avaient été enlevées en 2014 par ces djihadistes. C'est ce qu'ont rapporté hier des villageois cités par l'AFP. Selon eux, les assaillants sont arrivés dans le village à la tombée de la nuit samedi et ont ouvert le feu sur les villageois qui dormaient, pillant et brûlant les maisons avant de s'enfuir en kidnappant 13 femmes et enfants.
Un kamikaze à moto a détonné sa charge explosive dimanche dans un marché de Mora, dans l'extrême nord du Cameroun, faisant 3 morts et 24 blessés. Selon un responsable militaire, l'assaillant a été également tué.
C'est un procès inédit qui doit s'ouvrir aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Un djihadiste malien présumé a prévu de plaider coupable de la destruction de mausolées classées au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. Les précisions de John Lyndon.
Le Touareg Ahmed Al-Faghi Al-Mahdi est accusé d'avoir dirigé intentionnellement des attaques contre 9 des mausolées de Tombouctou et contre la porte de la mosquée Sidi Yahia entre le 30 juin et le 11 juillet 2012. Il devrait être la première personne à reconnaître sa culpabilité dans l'histoire de la Cour et est le premier accusé à répondre des crimes de guerre pour destruction de patrimoine culturel. Il est aussi le premier à répondre des crimes commis pendant le conflit malien. L'accusation affirme en effet qu'Ahmed Al-Faghi était un membre d'Ansardine et qu'en tant que chef de la Hizba, la brigade islamique de Meuse, il aurait ordonné et participé aux attaques contre les mausolées détruits à coups de pioche et de houe. Le site a depuis été reconstruit, mais pour la procureure Fatou Ben Souda, l'enjeu des procédures va plus loin que des pierres et des murs.
Les États-Unis appellent les autorités mauritaniennes au respect des droits de l'homme et ils dénoncent les peines de prison et tortures présumées à l'encontre des militants anti-esclavagistes. Timothée Donangmaï.
Les États-Unis sont gravement préoccupés par les peines de prison sévères infligées à 20 personnes arrêtées après les manifestations du 29 juin à Nouakchott, a écrit le porte-parole du département d'État, Mark Toner, dans un communiqué publié ce week-end. Parmi les personnes condamnées se trouvent 13 membres de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, IRA, souligne le communiqué. Les préoccupations de Washington portent notamment sur les peines de 3 à 15 ans de prison rendues jeudi par la Cour pénale de Nouakchott contre les militants de l'IRA. Ces derniers avaient été arrêtés pour implication présumée dans une violente manifestation le 29 juin contre le déplacement forcé par les autorités des habitants d'un bidonville de la capitale mauritanienne. Le département d'État a réclamé une enquête sur les allégations selon lesquelles certaines de ces personnes ont été victimes de torture durant leur détention. Il a assuré qu'il suivra avec attention le procès en appel attendu.
En République démocratique du Congo, la coalition des forces d'opposition créée à Bruxelles refuse de participer aux travaux préparatoires du dialogue national convoqué mardi par le facilitateur de l'Union africaine. Dans un communiqué publié samedi, le rassemblement de l'opposition dit considérer comme une provocation la décision du facilitateur. L'opposition congolaise a appelé à une grève générale après l'annonce par la commission électorale que la présidentielle prévue en novembre se tiendra en 2017.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a dit qu'un kamikaze qui avait entre 12 et 14 ans était l'auteur de l'attaque qui a fait au moins 51 morts et des dizaines de blessés samedi lors d'un mariage dans le sud-est du pays. Le président turc a affirmé qu'il soupçonnait les extrémistes du groupe État islamique d'avoir perpétré l'attentat de Gaziantep près de la frontière syrienne. « Notre pays et notre nation n'ont qu'un message pour ceux qui nous attaquent. Vous ne réussirez pas », a assuré M. Erdogan. La Maison-Blanche a condamné les auteurs de cette attaque barbare, cynique et lâche et annoncé une visite mercredi à Ankara du vice-président Joe Biden pour réaffirmer l'engagement des États-Unis à lutter ensemble avec la Turquie contre le fléau du terrorisme.
Le gouvernement britannique a dévoilé aujourd'hui un plan contre l'islamisme radical en prison. Il prévoit notamment d'interdire aux détenus qui encouragent des croyances contraires aux valeurs britanniques fondamentales de participer aux prières. Le ministre de la Justice a déclaré que l'extrémisme en prison était une menace grandissante qui devait être traitée comme une urgence.
Rencontre cet après-midi en Méditerranée au large de l'Italie. Entre le premier ministre italien Matteo Renzi, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande, ils vont chercher les moyens de relancer une Europe en pleine crise d'identité à la suite du Brexit, la décision britannique de quitter l'Union européenne.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho, John Linden.
La République démocratique du Congo a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2016. Celle-ci devrait se situer à 4,3% contre 6,6% annoncé en début d'année. Ces prévisions du gouvernement rejoignent celles annoncées en juin dernier par la Banque centrale du Congo. Comme plusieurs pays de la région, la RDC connaît une conjoncture difficile. Le FMI estime que la croissance dans la région devrait chuter cette année à 1,6%. Plus de 3 milliards de francs CFA des bénéfices avant impôts, c'est ce qu'a réalisé Uniwax au premier semestre 2016, soit une hausse de 26% par rapport à la première moitié de 2015. L'entreprise confirme ainsi ses bonnes performances du premier trimestre où le résultat avait bondi de 72% à 1,3 milliard de francs CFA. Uniwax est basé en Côte d'Ivoire et est spécialisé dans la production des tissus de cire revêtue. C'est l'une des meilleures entreprises cotées à la bourse régionale. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de se désengager du groupement intermonétique Jim, You et Moi, une part substantielle des 51% détenue par l'institution centrale sera ainsi cédée à un partenaire technico-financier d'ici la fin de l'année. Le cabinet Grant Thornton a été mandaté pour accompagner la BCEAO dans le choix stratégique du partenaire technique.
À présent, notre page sport avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour. Les rideaux sont tombés hier sur l'édition 2016 des Jeux Olympiques au Brésil et au marathon chez les hommes. Enfin l'or pour Kipchoge.
Eliud Kipchoge a remporté donc l'épreuve du marathon en 2h 8 minutes 44 secondes. Le Kenya devance l'Éthiopien Feisa Lilesa qui a réalisé un chrono de 2h 9 minutes 54 secondes. L'Américain Galen Rupp complète le podium. Toujours sur la piste d'athlétisme, triplé à africain sur le 800 mètres féminin. Caster Semenya, championne du monde, il y a 7 ans, a remporté le premier titre olympique de sa carrière en 1 minute 55 secondes 29 centièmes. Elle a devancé la Burundaise Francis Nyonsamba et la Kenyane Margaret Vambi.
D'autres médailles ont été remportées par les athlètes africains.
Effectivement, et l'argent pour Julius Yego au lancer du javelot. Le Kenyan champion du monde en titre longtemps en tête s'est finalement incliné avec un jet à 88 mètres 24. Il échoue derrière l'Allemand Thomas Roller. L'Algérien Taufik Makloufi a quant à lui pris la deuxième place du 1500 mètres. Le champion olympique sortant a été devancé par l'Américain Matthews Santoruiz. De l'argent encore sur 5000 mètres pour l'Éthiopien Agos Gebrit. La victoire revenant au Britannique d'origine somalienne Mo Farah, déjà vainqueur du 10000 mètres. Un doublé 5000 10000 mètres qu'il avait déjà réalisé il y a 4 ans à Londres.
Élisée, moment historique pour le Niger avec la deuxième médaille de son histoire.
Et ça a eu lieu en taekwondo grâce à Issoufou Alfaga Abdul Razak, 44 ans après Issaka Dabore. Issoufou Alfaga, champion d'Afrique, a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des plus de 80 kilos puisque battu par le champion du monde, l'Azerbaïdjanais Radig Isaev, 6-2. En football, le Nigeria termine à la troisième place, médaille de bronze donc après sa victoire de 3-2 face au Honduras. La médaille d'or a été remportée par le Brésil, vainqueur de l'Allemagne au tir au but 5-4. Un but partout après le temps réglementaire.
En clôture de ces Jeux, on a eu droit à trois grandes finales en handball, basketball et volleyball.
En volleyball, le Brésil est champion olympique après avoir battu l'Italie 3-7-0, 25-22, 26-28 et 26-24. C'est le troisième titre de la CLSAO au JO après les victoires de 92 et de 2004. En hand, la France perd son titre suite à sa défaite 26-28 face au Danemark. Un premier titre pour les coéquipiers de Hansen. Et puis en basketball, les États-Unis conservent leur titre après une facile victoire sur la Serbie 86-66. Au tableau des médailles, ce sont les Américains qui terminent en tête avec 121 médailles, dont 46 en or, 37 argent et 17 bronze, suivi de la Grande-Bretagne et la Chine qui complètent le podium. Le premier pays africain de ce classement a pour nom le Kenya, 15e qui totalise 13 médailles, 6 or, 6 en argent et 1 en bronze. L'Afrique du Sud, 30e, compte 10 médailles, 2 en or, 6 en argent et 2 en bronze. Et puis l'Éthiopie complète ce trio avec 8 médailles.
Sur le continent, on jouait le deuxième tour retour des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans.
Oui, cette manche retour est marquée par l'élimination du Nigeria, champion du monde de la catégorie, par le Niger. Vainqueur à l'aller 1-0, les Nigériens se sont inclinés 3-1 à Niamey. Pareil pour le Burkina Faso devant le Ghana. Les jeunes Burkinabés, malgré leur victoire de 4-1 au match retour, c'était déjà incliné à Accra 5-1. Insuffisant donc pour passer. Par contre, ça passe pour la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal qui ont écarté respectivement le Bénin, le Kenya et la Tunisie. La surprise est venue des Comores, vainqueurs du Mozambique de 1 à l'aller et 3-0 au match retour. Qualification également du Mali, de l'Angola et de la Guinée Conakry qui a écarté le Maroc.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau en votre compagnie, Idrissa Seludia, nous passons à nos dossiers du jour. À Bukavu, en République démocratique du Congo, le prestigieux gynécologue congolais Denis Mukwege a invité les jeunes à briser la peur et les églises à ne pas freiner l'élan patriotique des citoyens en cette période préélectorale en RDC. Précision de notre correspondant à Bukavu, Ernest Muhero.
Ils étaient plus de 1000 les jeunes venus participer à cette conférence centrée sur le rôle qui doit jouer l'Église pour préserver la paix pendant cette période préélectorale. Occasion pour l'orateur du jour, Dr Denis Mukwege, d'appeler les églises à apporter leur contribution au respect de la démocratie en RDC, attendu que le pasteur et prêtre ont une influence non négligeable sur les masses. Aux jeunes, Mukwege a demandé de vaincre la peur en cette période des grands tiraillements de la classe politique, combattre les antivaleurs et surtout prendre une part active dans la consolidation de la démocratie. Docteur Denis Mukwege.
Bientôt 20 ans que beaucoup de jeunes parmi vous n'ont jamais connu la paix. Quelle valeur nous voulons redonner à notre pays qui malheureusement est réputé par ces conflits. La corruption. Apportez votre contribution pour arrêter les chaos et la violence pendant cette période préélectorale. Et si nous avons cet idéal en commun, tant que nous pouvons transformer ces pays et en faire vraiment un véritable jardin d'Éden.
Des applaudissements qui se succèdent le long du discours de l'orateur du jour qui dure près de 2 heures. Mais à 12 heures pile, l'ambiance change subitement. Les visages se crispent d'un coup, l'atmosphère se charge d'électricité. Denis Mukwege et une bonne partie du public sortent leurs sifflets. C'est un vrai vacarme qui s'ensuit. On siffle dans la salle, on tape sur les tables. Un geste initié depuis quelques jours par la société civile du Sud Kivu à chaque 12 heures pile pour réclamer les élections présidentielles dans les délais constitutionnels. 3 minutes après le tapage,
que ta volonté soit faite.
C'est une prière pour le Congo qui est entonnée. Denis Mukwege invite le jeune à s'approprier le processus électoral et s'interroger sur le modèle du Congo dont chacun rêve pour demain. Quel message le jeune a retenu de cette conférence?
Parce qu'il parle du changement. En tout cas, nous sommes d'accord avec lui. Nous attendons voir nos autorités respecter la constitution. Nous attendons passer à une autre phase de la vie politique dans notre pays.
On a retenu qu'il y aura plusieurs manipulations. Ce que nous pouvons faire comme jeunes, c'est éviter la passivité par rapport aux situations que nous aurons à rencontrer.
En fait, ce que moi j'ai retenu en tant que jeune, c'est de briser la peur, mais aussi de travailler et de manifester dans la non-violence.
Vous savez, lorsqu'on revendique, les églises aussi nous prêchent que nous n'avons pas ceci ou cela, parce que le diable en est l'auteur. Mais moi, avec tout ce qu'il a développé, je trouve que le diable n'y est pour rien. Il faut que la jeunesse s'implique davantage.
La conférence a regroupé des jeunes des différentes confessions religieuses dans la grande salle des Pères Xavériens à Panzi en commune d'Ibanda. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Gabon, la campagne pour la présidentielle entre dans sa dernière phase. De Libreville, Jean-Rovis Dabani.
Comme à chacun de ses meetings, des groupes de rap comme les rappeurs du Temple du Désert chantent les louanges à la gloire de leur champion, Ali Bongo, et favorisent du scrutin présidentiel en un tour. Tout le week-end, le président candidat comme ses principaux rivaux ont enchaîné des meetings, conscients que 15 jours de campagne pour couvrir tout le pays sont insuffisants. Vanessa, partisan d'Ali Bongo.
Nous sommes là pour célébrer la candidature du président Ali Bongo. Et nous croyons que tout va bien se passer parce que il est le candidat de l'avenir. Nous avons confiance, nous avons espoir que beaucoup de choses changeront.
Comme elle, les sympathisants d'Ali Bongo sont convaincus de la victoire de leur candidat, mais lui, elle est d'entre eux.
C'est une élection présidentielle, donc à partir de cet instant, chaque candidat a ses arguments. D'autant plus que notre candidat est le président sortant et déjà fort de ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va faire dans l'avenir. Mais nous nous disons, nous la jeunesse derrière nous.
Après avoir rassemblé des milliers de personnes dans trois meetings distincts dans le nord du pays ce week-end, Ali Bongo s'est rendu immédiatement dans le sud du Gabon, pendant que son principal rival Jean-Ping tenait un meeting dans la province natale du président candidat. Jean-Ping, qui effectue sa tournée en jet privé, a reçu un modeste soutien ce week-end. Léon Polongo-Lakia, candidat indépendant et cousin germain d'Ali Bongo, a rejoint le camp de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Dans un tube enregistré par les artistes favorables à Jean-Ping, des jeunes rappeurs appellent leur champion à aller jusqu'au bout. Traduction selon le camp d'Ali Bongo, c'est une incitation à la violence. La communauté internationale a appelé tous les acteurs à encourager la participation à une élection sans violence. Pour la première fois, l'Union européenne va observer les élections dans cette ancienne colonie française. Libreville, Jarovis Dabadi, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Mali, la libération du chroniqueur Razbatch suscite beaucoup d'interrogations dans le pays. Ses fans se réjouissent de sa remise en liberté, tandis que d'autres expriment leur désaccord. Et la justice précise, elle, que Razbatch a été mis sous contrôle judiciaire avec une restriction de ses mouvements. De Bamako, Kassim Traoré.
L'affaire Razbatch s'invite dans toutes les causeries à Bamako et chacun y va de son commentaire.
Ça peut être bien pour apaiser un peu la situation. Ce que j'aurais appris, l'enquête suit son cours. La justice quand même doit être indépendante. L'État, le gouvernement ne doit pas s'intégrer dans les actions de la justice. Razbatch était citoyen comme les autres Madians.
Razbatch ne devrait pas être libéré. On devrait lui infliger une sanction pour qu'il comprenne qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Sinon, si on le a libéré comme ça, il va penser que ce qu'il fait est toujours bon.
Si la loi a décidé de le libérer, il n'y a aucun problème sur ce. Comment il n'a pas été libéré sur l'infilant de Libéka. Vu les dernières interviews du procureur, le procureur a bien précisé, le monsieur, il est toujours sur le mandat de dépôt. Il n'a pas été libéré totalement. N'importe quel moment, pour avoir besoin de lui pour une autre interpellation.
Certains Bamakois pensent que le gouvernement n'avait plus le choix.
Moi, c'est Abdel Fama Koulibaly. La libération de Razbatch fut un forcing parce qu'il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps qui ont fait qu'il y a un malaise généralisé. Alors, ce n'était pas le moment de l'arrêter. Sa libération, même si c'est sur contrôle judiciaire, montre la faiblesse de l'État. Un État qui ne peut pas prendre ses responsabilités, un État auquel le peuple malien ne peut pas se confier. Et c'est la déception totale.
Les fans de Razbatch se réjouissent de la libération de leur champion, même s'ils n'ont pas beaucoup apprécié l'implication des leaders musulmans.
Moi, c'est Aboubakar Maïga, étudiant à l'Institut. La libération de Razbatch, je l'ai appréciée à sa juste valeur, du moment où je suis un fan de Razbatch. Mais nous devons chercher d'autres moyens plus légaux afin d'éviter l'amalgame dans le futur. Puisque chaque fois que nous verrons les musulmans intervenir, ça va donner une autre image à notre laïcité et ça peut être source de d'autres conflits.
Après la manifestation du 17 août dernier, 19 personnes ont été arrêtées. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mamadou Ismaël Konaté.
Ceux qui se sont mis en mouvement, monsieur le président, vont devoir répondre vis-à-vis de la loi. 19 personnes ont été arrêtées, 19 personnes ont été déférées, 19 personnes vont être poursuivies ici et 19 personnes vont répondre de leur responsabilité. Parce que cette personne, depuis 24 mois, insulte qui il veut, tout seul, sans aucun respect, rien. Quiconque met en cause les troupes, les forces de défense et de sécurité qui sont dans des positions assez difficiles aujourd'hui, s'en prendre au moral des troupes qui sont sur place est inadmissible. Je ne pourrais pas tolérer cela.
Les avocats de Razbatch, au cours d'une conférence de presse, ont fait savoir qu'ils vont défendre les 19 personnes arrêtées. Ils ont aussi rejeté toute implication des leaders religieux musulmans dans la libération de leurs clients. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, ce mois d'août reste marqué par une affaire de détournement de fonds publics mettant en cause la société d'exploitation du guichet unique du Bénin, Segup, et plusieurs sociétés spécialisées dans la vente des véhicules d'occasion en transit. C'est ce qui ressort des audits commandités par le gouvernement du président Patrice Talon. Reportage de Ginette Fleur-Adandé à Cotonou.
Le rapport est accablant. La filière de vente des véhicules d'occasion en transit au Bénin aurait fait le bonheur d'un groupe restreint de personnes proches du gouvernement défunt. Le ministre des Transports lève ici un coin de voile sur l'affaire.
Le montant total reversé sur la période de mars 2012 à avril 2016 à l'ensemble des prestataires impliqués dans la filière véhicules d'occasion en transit est évalué à plus de 149 milliards 306 millions de francs CFA. La plupart des prestataires ont reconnu et ont confirmé régulièrement le total des montants qui leur ont été payés au cours de la période de mars 2012 à avril 2016.
Dans le rang de la population, on apprécie la détermination du gouvernement à voix claire dans cette affaire.
On doit les punir et là, ça va donner de l'exemple aux autres.
Si on continue comme ça, avec l'impunité, on va ruiner le pays.
Bon, ils doivent d'abord rembourser tout ce qu'ils doivent pour si c'est dans le compte de l'État.
On n'arrête pas le processus à cette étape-là.
Il faudrait que la justice tape sur la table. Ils ont tué la filière.
Au lendemain de la publication du rapport d'Audi, des voix se sont levées à travers mes communiqués pour soit apporter un démenti, soit clarifier des points jugés obscurs dans le rapport. Pour les importateurs, il était temps qu'on donne un coup de pied dans cette fourmilière. Ils espèrent des réformes fortes et engagées dans le secteur pour soulager les acteurs du domaine. Cette affaire est loin de livrer tous ses secrets. Il y a quelques jours encore, Pascal Irénée Koupaki a été convié à un débat contradictoire parce qu'il serait mêlé à cette affaire. Mais il a préféré laisser la justice tirer cette histoire au clair pour que le peuple soit fixé sur ceux qui se sont enrichis de façon malhonnête au détriment de l'intérêt national. Les organisations de la société civile maintiennent quant à elles la veille permanente afin que ce dossier, à l'instar de nombreux autres, ne soit jeté dans le casier des oublis. De Cotonou, Ginette Pleuadondé pour VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016. Après le remaniement de son équipe de campagne, le candidat républicain Donald Trump tente d'ajuster le tir avec notamment un appel appuyé en direction des Africains américains. Son adversaire démocrate Hillary Clinton continue, quant à elle, à consolider son avantage dans les sondages. Timothée Donangmaï.
Lors d'une réunion électorale samedi à Fredericksburg, en Virginie, l'un des États où pourrait se jouer la présidentielle de novembre, Donald Trump n'y est pas allé par quatre chemins.
I fully recognize the outreach to the African-American community.
Je reconnais entièrement que les efforts en direction des Africains américains sont un domaine où le Parti républicain doit mieux faire et fera mieux, a déclaré le candidat républicain qui a assuré vouloir que son parti soit inclusif. C'est le parti d'Abraham Lincoln, a-t-il rappelé, ajoutant « Je veux que notre parti soit à nouveau celui des électeurs africains-américains ». En lançant sa campagne l'année dernière, le candidat républicain avait, entre autres, accusé le Mexique d'envoyer ses meurtriers et ses violeurs aux États-Unis et il s'était juré d'expulser les quelques 11 millions de sans-papiers vivants aux États-Unis, des propos incendiaires qui lui ont valu la réprobation de nombreux électeurs issus des minorités. Donald Trump veut maintenant tourner la page. Avant son discours en direction des Africains-Américains samedi, le candidat républicain a rencontré les membres de son tout nouveau Conseil consultatif national hispanique qui doit l'aider à affiner son message, de même qu'abattre campagne dans les milieux hispaniques.
Selon les sondages, la candidate démocrate Hillary Clinton est bien positionnée dans plusieurs États à moins de 80 jours de la présidentielle. Timothée.
Pour l'ancienne secrétaire d'État, la stratégie pour obtenir le minimum de 270 votes des grands électeurs nécessaires pour remporter la course à la Maison-Blanche est assez simple. Il lui suffira de gagner dans les États votant traditionnellement démocrates et remporter l'un de ceux en jeu cette année, selon Associated Press, à savoir la Floride, l'Iowa, le New Hampshire, le Nevada, la Caroline du Nord et l'Ohio. Les choses semblent un peu plus compliquées pour Donald Trump. Selon toujours Associated Press, le candidat républicain doit non seulement remporter l'ensemble des 6 États en jeu, mais aussi gagner l'un des États où son adversaire démocrate a une solide avance. Dans ce contexte, les débats entre les deux candidats sont très attendus. Le camp de Trump est encore en train de discuter du calendrier proposé par la commission indépendante des débats présidentiels, a expliqué Kellyanne Conway, directrice de campagne de Trump. Il est temps d'accepter ce calendrier et de passer à l'action, a lancé pour sa part Robbie Mook, directeur de campagne d'Hillary Clinton, lors d'une intervention sur la chaîne de télévision américaine ABC.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.